buissonnet.ch.
L'heure vous est offerte par les écoles Buissonnet et Montagny. Mathieu, bac, 12e année et cycle d'orientation à Sion.
Buissonnet et Montagny.
Excellente fin de dimanche, merci d'être avec nous, il est 18h. Et 18h, l'heure du journal, on débute avec les titres.
Se nourrir de la frustration et tourner la page, c'est le mot d'ordre à adopter pour le FC Sion. Battu aux portes de la finale de la Coupe de Suisse, le club valaisan a reçu une bonne nouvelle pour le championnat, le match nul de Thun. Excellente année pour Unia Valais, le syndicat a remporté plusieurs combats en 2023 et enregistre un nombre record d'adhérents. Seul ombre au tableau, l'échec des négociations salariales pour les maçons du canton. Le musée de Montet pourrait ouvrir cet automne. Géré par l'association du Vieux Montet, le futur lieu culturel fera la part belle à l'histoire industrielle de la ville tout en attirant le jeune public.
Le temps couvert d'aujourd'hui va se poursuivre durant les prochains jours, notamment en raison du sable du Sahara qui sera de retour. Météo détaillé à la fin du journal. Le journal présenté par Oriane Bingley. Oriane, bonsoir.
Bonsoir Malena, bonsoir à tous.
En football, après les émotions vécues hier soir à Tourbillon, le FC Sion peut déjà tourner la page.
La formation valaisanne n'a pas à rougir de sa défaite 2-0 contre Lugano en demi-finale de la Coupe de Suisse. Seul bémol, l'action litigieuse qui a permis aux Tessinois de doubler la mise. Un fait de jeu qui a scié les jambes des joueurs sédunois et qui a aussi transformé l'énergie qui habitait le stade de Tourbillon. Joël Schmidt, défenseur du FC Sion.
Oui, et aussi un peu l'ambiance du stade, je trouve. Après le désordre, s'ils sont sur le terrain, aussi les mecs sur les tribunes, ça va être difficile de passer ce match encore. Mais bon, extrêmement frustré, comme j'ai dit. Tu dois être 100% sûr. Mais bon, on ne peut rien changer maintenant. Focus sur les derniers 4 matchs, 4 victoires.
Avec 3 points d'avance, la bonne nouvelle de la soirée, elle est venue de Nyon.
Oui, mais je veux focus sur nous, sur notre force, sur notre 4 matchs. Si on fait notre travail, on peut passer, on peut faire des bonnes vacances avec une bonne santé, avec le Super League dans la tête déjà.
Focus sur le championnat, dit Joël Schmidt, qui gardera tout de même en mémoire les images d'un stade plein et d'un public mobilisé comme jamais.
Si tu rentres de joueur, tu sais, un stade plein, pour ça tu travailles depuis 10, 20 ans. Ça, c'est un moment que tu réalises que tu es vraiment un joueur professionnel. Comme je t'ai dit, tu te réveilles chaque jour pour cette émotion. Et merci beaucoup pour les spectateurs, c'était fantastique.
Des propos recueillis par Hugo Dacustodia. En cyclisme, Carlos Rodriguez a remporté ce dimanche le Tour de Romandie 2024.
L'Espagnol a conservé la première place du général au terme de la dernière étape gagnée par Dorian Godon ce dimanche à Vernier. Ce dimanche, donc sous la pluie, la formation Ineos a bien résisté sur les routes genevoises pour permettre à son jeune leader de rallier l'arrivée dans le groupe de tête. Côté helvétique, les Valaisans ne sont pas parvenus à prendre une échappée. Yannis Wasart termine meilleur Suisse de cette épreuve romande. Le Jurassien qui avait souffert la veille à Lézin pour terminer à plus de 3 minutes du vainqueur du jour, Richard Carapaz, a fini cette dernière étape dans le peloton principal et a gagné une place au classement général final à la 21e place.
Pour moi, c'est un bilan positif. C'est sûr que j'ai montré de très belles choses durant la semaine. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir. Et oui, après, c'est clair que voilà, il y a encore du travail à faire. C'est sûr, il y a eu des petites erreurs qu'on peut corriger dans le futur. Et c'est aussi intéressant de voir là où on peut progresser. Garder le top 10 jusqu'à l'arrivée finale, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué pour l'instant. Mais voilà, on va travailler pour atteindre ça un jour.
Des propos recueillis par nos confrères de Radio Lac. L'an prochain, le Tour de Romandie s'élancera de Saint-Imier avec une étape à Thion qui est annoncée. On continuera à parler cyclisme et évidemment football dans notre émission Zone Mixte tout à l'heure dès 18h15. Restez à l'écoute.
Dans la nuit de samedi à dimanche, un scootériste a été retrouvé inconscient à l'avenue de Tourbillon à Sion.
La police valaisanne lance un appel à témoins afin d'établir les circonstances de l'accident. Vers 1h15 du matin, un Suisse âgé de 30 ans circulait au guidon de son scooter sur l'avenue de Tourbillon à Sion, du centre-ville en direction de Saint-Léonard. À quelques 200 mètres avant la rampe permettant l'accès à la transversale des Reins, il est entré en collision contre la glissière de sécurité sise sur la droite de la chaussée. Le malheureux grièvement blessé a été acheminé par ambulance à l'hôpital de Sion. Toute personne pouvant fournir des renseignements est priée de contacter la centrale d'engagement au 027 326 56 56.
Unia Vallée, le syndicat est satisfait du travail accompli en 2023.
Réunis en assemblée hier à Sierre, les délégués ont noté une augmentation record du nombre des adhérents qui frôlent désormais les 11 500. Avec une présence accrue sur le terrain, le syndicat joue depuis quelques années la carte de la proximité avec le monde du travail. Un syndicalisme qui se veut combatif et offensif, et ça marche. Blaise Caron, secrétaire régional d'Unia Vallée.
C'est un travail collectif. Moi, je m'inscris bien sûr dans la continuation de tout ce qui a été fait dans le cadre du syndicat Unia depuis 20 ans. Et c'est vrai qu'on essaye vraiment, parce que c'est un constat qu'on fait, que si on n'est pas sur le terrain, si on ne travaille pas avec les militants, si on n'a pas un rapport de force, on n'a rien. Et les gens nous payent des cotisations pour avoir des résultats. Ils ne nous payent pas parce qu'ils ont de la sympathie pour nous. Donc c'est aussi le mandat que nous donnent de plus en plus les salariés d'obtenir des choses à travers le rapport de force, parce qu'on constate que seul le rapport de force permet d'obtenir, quoi. Donc nous, on est obligé de s'adapter, puis on le fait, à part ça, on le fait avec plaisir, parce que c'est aussi un syndicalisme qu'on aime bien, syndicalisme de mouvement, de proximité, d'être dans la rue, de favoriser le collectif. C'est aussi des moments aussi de camaraderie, et puis ça crée de l'unité. C'est, oui, ça correspond effectivement à ma personnalité.
Seule ombre au tableau pour 2023, l'échec des négociations salariales pour les maçons valaisans. Selon Blaise Caron, Unia Vallée va donc durcir le ton en 2024.
Il faut qu'on apprenne de nos échecs. On a voulu faire une négociation autour de la table sans créer un rapport de force, en pensant que l'échange rationnel d'arguments aurait suffi pour convaincre les patrons de la construction de donner au minimum le renchérissement à leurs salariés. Puis on marque que ce syndicalisme autour de la table ne suffit pas pour avoir des augmentations de salaire, mais que c'est vraiment la nécessité de créer un rapport de force pour que les salariés puissent obtenir leur dû.
Vous avez prévu quelque chose pour les maçons en 2024 ?
Alors effectivement, on est en train de planifier différentes actions. Il va y avoir une manifestation nationale au mois de septembre, mais il y aura aussi des actions spécialement dans la construction cet automne qu'on était en train de planifier avec les différents comités de maçons, pour que cette fois, ils se fassent entendre par la force, vu qu'il faut qu'ils descendent dans la rue pour obtenir ce à quoi ils ont droit.
En 2023, la Rappe d'or a été décernée à l'Association Valaisanne des Entrepreneurs, l'AVE, ainsi qu'à l'Association Valaisanne des Entreprises de Carrelage. Cette distinction, on le rappelle, dénonce les associations patronales qui se sont montrées particulièrement pingres. C'était un sujet préparé par Nathalie Terretta.
Le futur musée de Monthey pourrait accueillir sa première exposition en fin d'année.
Actuellement en travaux dans le château de Monthey, le lieu dont le nom reste à trouver abritera des expositions temporaires et fixes. Parmi celles-ci, une sera dédiée à la vie industrielle de la cité. Équipée de 5 salles, notamment totalement rénovées et gérées par l'association du Vieux Monthey, le lieu pourrait devenir bien plus qu'un musée au terme du chantier. Jérôme Butet, le président de l'association du Vieux Monthey.
Ce château a des richesses, il est mal connu du public et même des Montaisans. Effectivement, la cour pourrait être utilisée pour différentes choses. Et puis, il y aura aussi la création d'un accès depuis une des salles sur les jardins autour du château. Alors, ces jardins pourraient servir pour des prolongations d'expositions avec des sculptures ou des objets, mais aussi peut-être pour utiliser lors des vernissages.
L'association réfléchit également à plusieurs moyens pour intéresser les jeunes générations au patrimoine de leur ville.
Ça pourrait être une option d'avoir une salle où on pourrait faire venir des classes, les intéresser à l'exposition temporaire peut-être du moment, ou aller aux expositions permanentes avec des moyens ludiques, les faire participer un petit peu et intéresser à l'histoire de leur ville, oui.
L'investissement s'élève à environ 650 000 francs pour la commune. Et pour rappel, l'association a vu le jour en 1938. Elle collecte, conserve et met en valeur le patrimoine montaisan. C'était un sujet préparé par nos confrères de Radio Chablais. Un Valaisan primé au concours national de sciences et jeunesse. Ce samedi à l'université de Fribourg, Fabio Caron s'est vu remettre le prix spécial de la Société Suisse de Physique. Le jeune Fuyérin de 18 ans concourait avec son travail sur l'évolution stellaire. Au total, 116 jeunes chercheurs de toute la Suisse ont été récompensés lors de cette finale, dont 23 projets romans. Plus de 200 000 francs de prix en espèces et 31 prix spéciaux étaient en jeu. Le festival Bédéphile, qui a fermé ses portes ce dimanche à Lausanne, a attiré un nombre record d'amateurs de bande dessinée. Pendant deux semaines, plus de 35 260 curieux ont déambulé dans cette 18e édition dédiée aux bédéastes belges et aux genevois Tim Tirabosco. Les organisateurs sont spécialement fiers du succès des journées pédagogiques visitées par plus de 2000 enfants. À noter que la 19e édition du festival se déroulera du 5 au 18 mai 2025, toujours à Lausanne.
Les efforts diplomatiques en vue d'une trêve dans les combats à Gaza associés à la libération d'otages se sont intensifiés aujourd'hui.
Dans le même temps, Israël poursuivait ses frappes sur le territoire palestinien assiégé et menacé de famine. Un haut responsable du Hamas a annoncé qu'une délégation du mouvement donnera lundi au Caire sa réponse à une proposition de trêve israélienne associée à la libération des otages près de 7 mois après le début de la guerre.
Merci beaucoup Oriane. Retour de l'actu demain matin dès 6h. Encore quelques précipitations ou bruines possibles ce soir et durant la nuit, mais elles auront tendance à s'espacer. Le ciel sera toujours très chargé. Demain, un temps partiellement ensoleillé, notamment en raison de la présence de sable du Sahara dans l'atmosphère. Les conditions resteront globalement sèches et les températures seront de saison, jusqu'à 21 degrés en plaine et 13 degrés vers les 1500 mètres. Mardi, pas de gros changements. Un temps changeant et encore de la présence de sable du Sahara. 20 à 22 degrés maximum en plaine du Rhône. Et mercredi, un ciel souvent nuageux et quelques averses attendues dans l'après-midi à partir du sud, autour des 16 à 18 degrés au meilleur de l'après-midi. Votre fin de journée continue sur Rhône FM. C'est le moment de notre émission sportive Zone Mixte, présentée aujourd'hui par Yoann Reduit. On va parler de football pour débuter en compagnie de Yves Bourdin et Yoann Lonfa. En direct de nos studios dans 3 minutes, ce sera juste après Selena Gomez et son titre Love On.
Qu'est-ce que je vais te nommer ? Je vais te nommer l'amour. L'amour.
Wait till I turn my love on. Wait till, wait till, wait till I turn my love on. I'm no cheap thrill, I'm a roller coaster ride, baby, jump on. Come on, come on, cause baby, if you can't tell, you're what I wanna love on. This doesn't have to be some sort of mathematical equation. Slip off your jeans, slide in the sheets, screaming yes in quotations. Clock in, baby, get to work. Night shift, but with all the perks. Time stamping when you fell in love. Time can't mess with us. With this steak tartare, where we could be somewhere other than here, making out in the back of a car or in the back of a bar, or we can make a memoir, yeah, on the back wall of the last stall in the bathroom at the bazaar.
Ooh, if you think about falling, got you covered like comments. Ooh, I deserve an applause for keeping you up late till I can't see straight. Just wait, whoa.
Wait till I turn my love on. Wait till, wait till, wait till I turn my love on. I'm no cheap girl, I'm a roller coaster ride, baby, jump on. Come on, come on, cause baby, if you can't tell, baby, if you can't tell, you're what I wanna love on. Wait till I turn my love on.
19h, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.
En football, le FC Sion ne disputera pas sa 15e finale de Coupe de Suisse cette année. Battu par Lugano hier soir à Tourbillon, les Valaisans vont devoir se remobiliser et tout miser sur le championnat. Toujours leader de Challenge League, le titre et la promotion restent en ligne de mire pour les hommes de Didier Tolo. Yves Bourdin et Johan Lonfa seront avec nous pour évoquer cette semaine, ce match de Coupe de Suisse et les dernières échéances qui attendent le FC Sion. Et enfin, on terminera avec du cyclisme et le Tour de Romandie qui s'est terminé aujourd'hui. Présent avec nous par téléphone, le régulateur du Tour, Alain Glacé, nous fera l'honneur de sa présence. Il nous expliquera son rôle avant d'évoquer les performances des Valaisans engagés. Football et cyclisme au menu, c'est Zone Mixte jusqu'à 19h sur Rhône FM.
Rhône FM, Zone Mixte avec Yoann Roduit.
Et dès à présent, la ligne WhatsApp de la radio est ouverte. Nous attendons vos questions ou vos remarques au 079 327 10 10. 079 327 10 10.
Zone Mixte, le débrief.
Et place donc au football pour cette première des deux parties consacrée au FC Sion. On va se concentrer uniquement sur la rencontre de hier soir, à savoir la demi-finale de la Coupe de Suisse. Pour rappel, les Valaisans se sont inclinés 2-0 contre Lugano dans un stade de Tourbillon à guichet fermé. Et pour débriefer cette partie, deux consultants nous ont fait le plaisir de leur présence ce soir. Yves Bourdin, Johan Lonfa. Messieurs, bonsoir.
Salut Johan.
Alors, petite remise en contexte pour nos auditeurs. Les Valaisans se sont donc inclinés 2-0 face à une équipe de Lugano qui restait au moment de la rencontre sur 10 matchs sans défaite. Et hier soir, les hommes de Croci Torti ont fait la différence à la 45e minute en première mi-temps avant de doubler la mise à la 51e sur un pénalty qui, vous le savez sans doute, a fait énormément parler. On en reviendra en large et en travers. Mais peut-être pour commencer avec toi, Johan Lonfa, avec quelques heures de recul, quel regard portes-tu un petit peu voilà, sur cette partie?
Bon, déjà, c'était une belle soirée de foot, hein, de voir Tourbillon vibrer comme ça, avec des supporters présents au stade une heure, deux heures avant le match. Donc, le public valaisan a répondu présent et c'était une belle fête du football. Et on voit que le FC Sion est une équipe de... Le Valais est une équipe de foot qui est de bon niveau, qui a un public. Et donc ça, c'était très positif. Sur le match en lui-même, moi j'ai beaucoup de choses positives à dire du FC Sion. On avait un peu des craintes sur les dernières rencontres peut-être en championnat. On voyait une certaine fatigue, on voyait des résultats un peu moins bons depuis un certain temps. L'absence de Bua, etc. Et on avait quand même un petit peu de crainte. On savait la qualité de l'adversaire aussi. Et puis, on a vu une entame de match. J'avais souvent dit à ce qu'on me demandait comment tu voyais la rencontre. Je dis, l'entame de match, pour moi, elle est primordiale. Se mettre à niveau, montrer qu'on est là, montrer qu'il y a de la présence. Et je pense que ça a été le cas. On a vu 40 premières minutes qui étaient de très, très belles factures au niveau de l'engagement. Les actions étaient là. Ben oui, il n'y a pas eu le petit but qui aurait pu peut-être inverser la tendance du match. Au contraire, on a pris ce but juste avant la mi-temps. Mais c'était quand même un très beau visage du FC Sion qu'on a vu hier soir.
Yves Bourdin, même question. Près de 24 heures après cette partie, quel est ton avis, toi qui étais aux commentaires hier soir?
Moi, je partage l'avis de Johan, effectivement. Hein. Déjà, il y a eu match, c'était pas si évident. Hein. On sait que Lugano joue le titre en Super League. Il y a une ligue d'écart entre les deux équipes. Et ça s'est pas vu sur le terrain hier. Donc, match réussi pour les Valaisans. Ce qu'il a manqué, j'ai envie de dire, comme ces dernières semaines, c'est la justesse technique devant. On a Saipi, le gardien de Lugano, qui a fait un très, très grand match, hein, qui a été élu d'ailleurs homme du match, et c'était sans surprise. Mais on a Zorgic, Chouaref, Kabakalman, qui ont eu l'occasion de marquer dans les 20 premières minutes. Ça c'est pas tombé, ce but qui aurait pu encore plus allumer Tourbillon. Déjà, il y avait une ambiance absolument incroyable, mais ce but aurait pu vraiment tout changer. Et voilà, le but n'est pas venu. On a senti Lugano fort, Lugano sûr de sa force. Et malgré la domination valaisanne en début de match et puis des actions vraiment nettes, les Tessinois n'ont jamais vraiment paniqué, n'ont jamais été vraiment pris à la gorge, j'ai envie de dire, et ont arrivé à gérer cette pression valaisanne et puis quand même à s'en sortir. Et puis le le but qui tombe juste avant la mi-temps. Comme l'a dit Johan, ça fait extrêmement mal. Hein. Sion sort vainqueur au point de cette première mi-temps. Après 45 minutes de jeu, Sion a 7 tirs, 4 cadrés. Lugano a 4 tirs, 2 cadrés, dont le but. Mais voilà, le but est absolument, voilà, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument le revoir, absolument magnifique. Un centre qui vient de la droite, remise à une touche de balle à l'extérieur des 16 mètres, volée un petit peu fuyante, personne ne peut rien faire, le but est vraiment parfait. Et ce but, c'est un peu le symbole de la première mi-temps, dans le sens que tout ce que Sion n'a pas réussi à faire dans les 16 mètres adverses, par manque de spontanéité, par manque de lucidité, ben là, en une occasion, une action, Lugano fait tout parfaitement et c'est 1-0 à la mi-temps, donc ça a vraiment fait mal. Puis on parlera peut-être aussi la deuxième mi-temps où il y a voilà, le coup d'assommoir, le pénalty à la 51e. Puis après, c'était très dur pour la session, effectivement. Ouais.
Alors, Yohann Lonfa, si on regarde un petit peu les statistiques, Yves l'a brièvement abordé, mais à la mi-temps, l'FC Sion est devant partout, hein, 7 tirs à 4, 4 tirs cadrés à 2, 13 ballons touchés dans la surface de réparation à 5, et puis si on regarde les XG, donc là, les possibilités de chances de but, c'était deux fois supérieur pour l'FC Sion. Donc finalement, tout donnait le FC Sion vainqueur en quelque sorte, et c'est Lugano pourtant qui rentre au vestiaire avec cette marge de 1-0. Ma question est simple, est-ce que Lugano a eu un peu de chance, ou alors est-ce que c'est justement la marque des grandes équipes, réussir à faire le dos rond et être clinique sur l'occasion?
Mais c'est un peu des deux. Les statistiques ne font pas un résultat. Donc vous pouvez avoir 80% de possession de balle et perdre le match. Vous pouvez avoir 10 corners à 2 et perdre le match. Donc c'est clair que ça fait aussi la beauté du football. C'est que de manière normale, je veux dire, une équipe qui domine, qui a plus souvent le ballon, ben oui, elle se crée plus d'occasions et elle a plus de chances de remporter le match. Mais là, sur la première mi-temps, ces statistiques ne surprennent personne. On a vu vraiment un FC Sion plutôt avec les ballons chez elle, se créer des occasions, plutôt à la manœuvre, et un FC Lugano qui a pas paniqué, c'est vrai, qui a géré ce moment faible qu'elle avait pour attendre un meilleur moment qui est venu aussi au cours du match. Hein. Je veux dire, le FC Lugano, on a vu aussi la patte et pourquoi cette équipe actuellement est dominante, même en Super League, c'est qu'elle ne panique pas, elle fait des choses cohérentes, elle a une justesse technique incroyable, le but en est la preuve, et puis elle sait gérer, il y a du mouvement, il y a de la qualité dans cet effectif-là, mais voilà, je pense quand même que la qualité du FC Sion, c'est d'avoir bousculé un petit peu ça, et il le fallait, et je pense que c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir aujourd'hui. D'ailleurs, Didier Tolo, Christian Constantin l'ont dit, on n'a rien à regretter à nos hommes aujourd'hui, parce qu'ils ont mis tout ce qu'il fallait comme ingrédient pour essayer de gagner ce match. Ça n'a pas souri aux Valaisans.
Yves Bourdin, tu l'as évoqué avant, hein, ce 1-0 magnifique. Fayoulou n'a rien pu faire. On le sait, encaisser au moment de rejoindre plus ou moins les vestiaires, puisque c'est ce qui est arrivé au FC Sion, c'est toujours très très compliqué. Est-ce que pour toi, ça a mis un coup au moral, ce but, voilà, quelques secondes de rentrer au vestiaire?
Je pense, après, Johan, qui a été joueur pro, le saura sans doute mieux que moi, ou le dira mieux que moi, mais t'as pas la possibilité de réagir. Tu prends un but, t'as pas la possibilité de te révolter derrière en disant, voilà, on met là 10, 15 minutes, on y va, et puis on va essayer d'égaliser. Le session a engagé, et derrière, c'était la pause. Et puis, si tu défends toute la première mi-temps, puis tu prends un but à la fin de la première mi-temps, ça fait mal, mais comme on l'a dit, en étant dominant dans les actions et dans le jeu, et puis prendre un but, je vais pas dire contre le cours du jeu, mais quasi quand même, ça doit faire encore plus mal. Et on sentait aussi que Sion a eu vraiment un grand temps fort, je dirais, les 20 premières minutes, et on sentait plus la mi-temps arrivait, on les sentait un petit peu moins agressifs, un petit peu moins présents au duel, remportant moins de deuxième ballon aussi à mi-terrain. Et il y a peut-être aussi la fatigue qui est venue en cette fin de mi-temps. Et tout ça conjugué, je pense que ouais, c'est un coup d'assommoir qui est tombé sur la tête des Valaisans à la 45e.
Et ça, je pense que le plan de jeu, c'était le plan de jeu de Didier Tolo, qui était complètement réussi, c'est-à-dire on va là pour bousculer notre adversaire. On a 15 000 spectateurs avec nous, on a une ambiance de folie, on va les bousculer, on va essayer de provoquer quelque chose. Et ça a été réussi. Il manquait juste cette réussite. Un grand saipi, il faut le dire, hein, cet arrêt-là de la main sur Sorgic était assez exceptionnel, on la voyait presque tous dedans. Il y a eu du mouvement, il y a eu des occasions, et donc j'ai vu aussi des duels gagnés, et comme contre IB peut-être, où là aussi je me suis dit, bah, attention, les grands gabarits d'IB lors du quart de finale vont faire mal à nos petits gabarits. Or, il y a eu du répondant dans les duels, dans les deuxièmes ballons. C'est vraiment ce qu'il fallait avoir. Et je pense que là, le plan de jeu de Didier Tolo était une réussite.
Alors on va maintenant évoquer un thème qui a fait et qui fera sans doute encore parler. Les deux équipes étaient donc de retour sur le terrain depuis quelques minutes seulement, quand l'arbitre de la rencontre, Monsieur Urs Schneider, a sifflé un pénalty en faveur de Lugano. Un pénalty litigieux, pour ne pas dire inexistant. Alors avant de vous faire réagir à ce sujet, plusieurs Sédunois se sont évidemment exprimés au terme de la rencontre là-dessus, et je vous propose d'écouter deux extraits. Un premier de l'entraîneur du FC Sion, Didier Tolo, qui répondait donc à Hugo da Custodia.
Ce soir, je vais faire très court. Alors, c'est pas vous manquer de respect, c'est parce que je veux pas que mes paroles puissent dépasser ce que je ressens aujourd'hui. Football, c'est 11 joueurs, il y a un groupe contre un autre groupe. Je pense absolument rien à reprocher à mes joueurs, mais ça devient difficile quand il y a un élément extérieur qui influence comme ça l'issue d'une demi-finale. Pour moi, c'est j'ai pas de mots, voilà. Donc je vais rester là-dessus.
On va encore écouter un deuxième extrait, celui du président du FC Sion, Christian Constantin, qui lui répondait à Christophe Morillon.
Les deux équipes avaient 12e homme, nous on avait 12e homme avec le public, Lugano avec un 12e homme avec l'arbitre. Cet arbitre, il devrait laisser la place à des plus jeunes avec du potentiel que de rester là à fausser les compétitions. Et je pense que s'il n'y a pas le 2-0 sur ce pénalty à justifier, on peut continuer dans la ligne de la première mi-temps qui était pour nous, sauf la dernière minute où on prend ce but, et puis on aurait vu un vrai match de coupe. Voilà, aujourd'hui je peux pas me plaindre de mon équipe qui a fait preuve d'un grand engagement, de bonnes combinaisons, mais l'arbitrage a faussé la partie.
C'est ce que vous avez essayé de lui dire lorsque vous êtes descendu au bord du terrain dans cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui passe par l'esprit à ce moment-là?
Non, mais je peux dire scandaleux, parce que comment vous voulez, il a tout le temps raison, il se remet même pas en doute. La fédération ne mène pas la VAR ce soir, mais enfin bon, quoi qu'avec la VAR, l'a dépassé Winterthur, il pouvait jouer avec les mains dans les 16 mètres, alors je ne veux encore pas trop me prononcer là-dessus, mais c'est dommage que les joueurs, les dirigeants font des efforts pour garder cette activité, et puis que des gens qui sont payés, parce qu'ils sont payés, ces arbitres, ne sont pas capables de sécuriser la partie et de la laisser se dérouler dans un bon état d'esprit comme était la première mi-temps.
Alors si on écoute ces deux extraits, ce qui ressort, voilà, les deux sont fiers de l'état d'esprit et de ce qu'a proposé le FC Sion, mais on sent aussi un fort sentiment d'injustice et beaucoup de frustration après cette demi-finale de la Coupe de Suisse. Johan Lonfa, quel est toi ton avis voilà, sur ce pénalty qui intervient rapidement? On vient de reprendre la deuxième mi-temps et là c'est un coup d'assommoir, un deuxième pour le FC Sion.
Oui, c'est de nouveau un temps très important. On a les moyens après cette ouverture du score de Lugano en fin de première mi-temps de tout de suite repartir dans une deuxième mi-temps avec des bonnes intentions, ou en tout cas attaquer la deuxième mi-temps comme ils avaient attaqué le match. Et c'est vrai que ça, c'est un coup d'arrêt. Alors, deux choses à dire. Déjà, moi, je ne comprends pas pourquoi la VAR n'est pas appliquée alors qu'elle a appliqué à l'instant dans le deuxième demi-finale qui oppose deux équipes de Super League. Donc pour moi, là, il y a déjà deux traitements différents par rapport à ça. C'est une incompréhension. Et puis bien sûr je rejoins tout le monde, il n'y a absolument pas pénalty sur cette occasion. Et donc là, il n'y a pas moyen pour l'arbitre de faire appel à la VAR. Il faut être absolument sûr de signaler le pénalty. Il y a plutôt faute de l'attaquant qui perd le ballon, qui est derrière Souza et qui met le pied par le désespoir de cause dans sa course pour finalement tomber. Donc c'est clair que ça c'est une grosse un gros point noir par rapport au match, parce que à 1-0 tout peut bien sûr encore évoluer dans cette demi-finale.
Avec votre expérience de joueur, quand voilà, il y a un coup du sort comme ça, une décision arbitrale qui est fausse et qui est lourde de conséquences, comment on fait pour réagir, pour ne pas sombrer, vu que ça doit être quand même extrêmement dur à encaisser?
Alors il faut se nourrir de cette injustice pour en donner encore davantage. Maintenant, il y a quand même 0-2 au tableau d'affichage. Il y a une équipe en face qui sait extraordinairement bien gérer cet avantage. Hein. Quand Lugano gagne au score, et qui plus est avec 2 buts d'avance, je peux vous dire que c'est compliqué. De nouveau, par la qualité des joueurs, et ça il faut aussi quand même reconnaître, actuellement ils jouent le titre Lugano. Je les vois assez bien d'ailleurs châtailler Young Boys. Donc on avait affaire à un gros morceau, et puis quand vous avez encore un bâton dans les roues, c'est clair que ça devient compliqué.
Alors Yves, on l'a entendu hier voilà, à l'antenne, tu partageais cet avis, mais finalement les Valaisans ont continué de pousser, ils ont fait ce qu'ils ont pu devant un stade à guichet fermé, et ils sont quand même créés encore de belles opportunités, notamment par Dejan Sorgic en fin de rencontre, mais voilà, il y avait un Saipi tout simplement des grands soirs qui a sorti le costume des grands soirs.
Ouais, on l'a dit, hein, la marche était haute, hein, ce FC Lugano a vaincu depuis 10 matchs, là ils se sont qualifiés hier pour la troisième coupe d'affilée, ça fait 3 ans qu'ils sont en finale de la coupe, les Luganais, donc on va dire c'est une équipe de coupe aussi, donc voilà, et comme l'a dit Johan, d'une fois que ce genre d'équipe mène au score, ils ont géré l'avantage de manière parfaite, hein, en grand professionnel du football, en gagnant du temps, en discutant, etc., mais aussi en jouant au foot, et ils ont laissé quand même que peu de chance au FC Sion. Il y a eu la grosse occasion, tu l'as dit Johan, de Sorgic face à Saipi, qui aurait pu relancer à 10 minutes de la fin, sauf erreur, sous le gradin nord, là, les actions du FC Sion, parce qu'il y aurait eu 2-1, mais voilà, une nouvelle fois, le geste n'est pas parfait de la part de Sorgic, ou alors le gardien était absolument incroyable, et c'est plutôt la deuxième version que je préfère garder, et c'est ça qui fait aussi la différence. Mais après, tu perds 2-0 contre Lugano à la maison en demi-finale, même s'il y a ce pénalty qui sort de nulle part, les joueurs n'ont pas le choix de se révolter et puis tout donner et aller de l'avant. S'il y a une chose qu'on pourrait regretter, à mon sens, c'est on a senti le FC Sion émoussé, il y avait moins d'engagement, moins d'agressivité aussi en deuxième mi-temps, et j'ai trouvé que Diétolo, avec le premier changement, je crois qu'il tombe à la 70e, et on fait que 3 changements, on laisse un Rousseff sur le banc, et ça j'ai pas compris hier. On a besoin de percuter peut-être sur les ailes, d'avoir un peu plus de dynamisme, et puis peut-être avoir plus de solutions pour jouer vite devant en fin de match. Et puis finalement, on laisse des cartouches sur le banc avec un Rousseff qui est forcément frais et joue très très peu. Et c'est peut-être un petit peu le seul regret que j'ai hier. Sinon, rien à dire sur les prestations des joueurs valaisans.
Ouais, Johan Lonfain, ouais. C'est une question, hein, on l'entend semaine après semaine, un petit peu les gens dire Didier Tolo fait ses changements très tard, il n'utilise pas tous ses changements. Quel est ton avis là-dessus?
Alors, mon avis, c'est que je suis d'accord à partir du moment où vous avez un banc de qualité. Je ne veux pas dire que le banc n'est pas de qualité, mais je pense, et Didier Tolo le pense, que les suppléants ne vont pas forcément amener une plus-value à l'équipe à ce moment-là. Donc je pense qu'on a malheureusement un banc qui est beaucoup moins fourni d'ailleurs que celui de Lugano. Lugano, quand il fait rentrer, il y a
Spinoza,
il y a Vladi, il y a qui rentre, il y a Spinoza. Ouais. Donc il y a que des joueurs qui sont pratiquement titulaires en temps normal. Sion, on n'a pas le banc. Moi, je pense qu'on n'a pas le banc. Et je pense qu'avec Rousseff, tu le demandais, Yves, je pense que malheureusement, il pense que Rousseff n'est pas à la hauteur. Sinon, il le ferait rentrer avant.
Clairement, c'est le cas.
Même Atoun, il l'a fait rentrer à 10 ou 15 minutes de la fin. Donc, je pense que malheureusement, il doit déplorer que le banc n'est pas à la hauteur à Sion.
Et si on termine un dernier mot, donc le FC Sion éliminé de cette compétition, mais il faut quand même regarder le parcours, éliminé en demi-finale, ils ont avant ça battu Getse en 16e de finale, IB en quart, et là on en a parlé, hein, une défaite face à Lugano, mais qui jouera sa 3e finale consécutive, qui est en lice pour le titre. Le parcours finalement, Yves Bourdin, du FC Sion en Coupe de Suisse a été quand même assez impressionnant cette année.
Ouais, le FC Sion est un Challenge League, sort 2 équipes de Super League, dont le champion suisse et le tenant de la Coupe, ce qui n'est pas rien, et à la hauteur du match d'hier soir en demi-finale de Coupe. Donc le parcours du FC Sion en Coupe, rien à redire, juste merci. Et puis ça a contribué peut-être, ou ça contribue, de refaire ce lien qui était cassé l'année dernière entre le public valaisan et le FC Sion. On sait que chaque bon valaisan dont on fait partie aimant ou adorant la Coupe et ses ambiances spéciales, et c'est ce qu'on a retrouvé hier à Tourbillon. Et je ne pense pas que les 15 400 spectateurs hier à Tourbillon vont revenir contre Ville vendredi. Mais voilà, j'ai vu plein de jeunes aussi qui étaient au stade. Ça va donner l'envie forcément à des gens de venir ou de revenir à Tourbillon. Donc sur le plan là, je pense que c'était vraiment parfait, tant sur le plan sportif que sur le plan vraiment communion avec le public. Et puis maintenant, voilà, on doit tourner la page, et peut-être que s'il faut tirer un enseignement ou un bilan, on le dit, c'est positif, mais pour la suite, ben voilà, c'est peut-être un mal pour un bien aussi. Reste 4 matchs, on va en parler tout à l'heure, pour aller chercher la promotion. Là maintenant, si on se trouve autour de ce micro et puis on se dit, ben le 2 juin c'est finale à Berne contre Winterthur ou Servette, dans toutes les têtes valaisannes et des joueurs, il y aura cette finale qui va arriver, et puis le focus ne serait pas peut-être à 100% sur le championnat. Donc on aurait pris la finale, mais bien sûr qu'on l'aurait prise. Mais voilà, maintenant, focus 100% sur les 12 points qui resteront à prendre.
Eh ben, tu l'as évoqué, Yves Bourdin, vous restez avec nous. Hein. Yoann Lanfa également, on parlera dans quelques minutes, toujours du FC Sion. On va changer de thème, on va se concentrer sur cette dernière ligne droite qui attend les hommes de Didier Tolo. Mais avant ça, on passe par la case musique sur Ron FM.
Zone Mix sur Ron FM.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont. Pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire.
Ron FM, Zone Mix avec Yoann Roduit.
Et on se retrouve, comme promis, pour continuer de parler du FC Sion en compagnie d'Yves Bourdin et de Yoann Lanfa. Mais dans cette dernière ligne droite qui attend les Valaisans, eh bien, on peut dire qu'ils jouent gros, puisqu'ils sont toujours leaders de Challenge League. Ils peuvent viser un retour dans l'élite du football suisse. Mais avant de se pencher plus globalement sur tout cela, je vous propose juste de faire un petit point complet de la 32e journée, puisque pendant que le FC Sion jouait la demi-finale dont on vient de parler, les autres clubs de Challenge League jouaient une rencontre de championnat. Donc, Haro s'est fait battre justement par Bellinzone sur sa pelouse 2-0. Vaduz a étrié Baden 6-0. Nyon a fait match nul contre Thun. Et Ville s'est incliné 1-0 face à Chafouz. Et donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce classement. Après 32 journées, toutes les équipes ont pour le moment joué donc le même nombre de matchs. Le FC Sion est leader de Challenge League avec 67 points et compte 3 points d'avance sur Thun, deuxième. Et ensuite, voilà, on a un groupe un peu plus loin. Vaduz 44 points, 3. Haro à 43 points, 4e. Xamax 5e avec 41 points. On retrouve ensuite Nyon avec 39 points. Ville avec 38 points à égalité avec Bellinzone. Et enfin 9e, Chafouz 36 points. Et Baden referme la marche avec 24 points. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur cette 32e journée de Challenge League. Et donc, cette semaine, le FC Sion a disputé 2 matchs. Et pourquoi c'est intéressant de parler de cette 32e journée? C'est parce que ça nous donne une petite idée du classement et de ce qui va attendre les deux équipes, puisque voilà, toutes les équipes ont le même nombre de points. Alors, si on revient déjà peut-être brièvement sur ce qui s'est déroulé cette semaine, il y a eu ce match de coupe, mais lundi, il y avait un autre match important. C'était un duel entre Sion et Thun, deuxième. Malheureusement, le FC Sion s'est incliné 1-0. Et heureusement, on peut dire la bonne nouvelle, c'est que dans la foulée, Thun n'a pas confirmé hier contre Nyon en faisant match nul. Donc, conséquence, il y a ces 3 points d'écart. Peut-être pour commencer, Yves Bourdin, les Valaisans ont perdu leur 3e et 4e match de la saison cette semaine. C'est la première fois qu'ils perdent deux fois de suite. Est-ce que on parle de semaine noire? Est-ce qu'il faut un petit peu s'inquiéter ou pas du tout, selon toi.
Bon, perdre contre Lugano, on pouvait, je vais pas dire qu'on pouvait s'y attendre, mais c'était vraiment un défi. Par contre, la défaite à Thun lundi aurait pu faire mal dans les têtes valaisannes, a peut-être fait mal dans les têtes valaisannes d'ailleurs. L'FC Sion n'a pas pu développer son jeu. Thun a vraiment très bien joué tactiquement, a bien contré les valaisans. Et voilà, sur quatre confrontations, il y a un nul et trois victoires contre Sion. Lustrinelli arrive à transcender ses troupes, à vraiment bien contrer le jeu des Valaisans, c'est clair et net. Et puis voilà, on avait la possibilité côté Sédunois de plier l'affaire hein, lundi. Ça s'est fini par un petit 1-0, mais sans que on se crée autant d'occasions qu'on aurait pu se créer contre Lugano hier. Voilà, en début de match, il y a Zorgic qui a un contre un contre le gardien de Thun qui fait un arrêt incroyable, et dans la foulée, c'est Thun qui marque un super but aussi. Puis derrière, on sent pas les Valaisans capables d'emballer le match, d'enflammer, et Thun voilà, qui casse le jeu, qui casse le rythme, etc. etc. Les minutes s'égrènent, et puis c'est trois points qui s'en vont. Et puis heureusement, tu l'as évoqué, que Thun ne va pas chercher les trois points à Nyon hier. On aurait un classement avec un petit point d'avance de Sion sur Thun. Là, voilà, il y a trois points. On ne l'a pas dit, mais il y a un goal average positif de plus 17 de Sion face à Thun. Ça veut dire qu'il reste 12 points en jeu pour les deux équipes, donc 4 matchs. Il suffit à Sion d'en gagner 3 sur les 4, à condition que Thun gagne tous ses matchs et Sion est promu. Donc le positif est côté Valaisan. On a ce petit match-là entre les deux équipes. Il faudra être concentré, donner à chaque fois le 120%, ça sera 4 finales, c'est sûr, et pas se dire on a 3 points plus le goal average qui va dans l'autre sens, on peut avoir un joker. Non, il faudra commencer déjà par Ville vendredi, prendre match après match. Thun, on va l'évoquer après dans la série de matchs qu'il aura à jouer, on va jouer notamment Baden est déjà relégué, donc on peut penser que c'est déjà 3 points pris pour Thun, encore que les matchs, il faut les jouer. Donc ça sera, voilà, c'est un nouveau petit championnat qui commence entre les deux équipes et il faudra pas louper les points.
Alors, Yohann Lonfa, question, il a allé plus vite que moi.
Il a tout dit.
Il a tout dit. Voilà, il reste 4 matchs, il l'a très bien dit. Sion peut se permettre le luxe de perdre une partie et de rester leader. Est-ce que, partant de ça, est-ce qu'on peut se dire tous les feux sont au vert pour le FC Sion? Ou alors, attention, danger à pas avoir dans le coin de la tête, on a un petit coussin de sécurité?
Non, je pense pas qu'on puisse dire que tous les feux sont au vert. On reste quand même avec une défaite sur Thun. C'est vrai, sur les 4 rencontres face à Thun, il y a qu'un point qui est pris par les Valaisans. Ce match de lundi, oui, il était un petit peu difficile. J'ai pas trouvé justement l'impact physique que les Sédu ont mis hier soir contre Lugano. Pas de surprise, pas de rapidité dans les transmissions. Ils se sont laissés un petit peu endormir par le jeu bernois. Donc voilà, il faudra quand même en tirer les enseignements et pas juste se réjouir de faux pas de Thun. Alors c'est très bien que Thun ait pas remporté l'enjeu hier. C'est aussi la bonne nouvelle de la journée de hier. L'autre bonne nouvelle, c'est quand même, on a vu justement que les Sédunois, même qu'on disait quand même un petit peu à bout de souffle, on a vu quand même que face à cette équipe de Lugano, d'un calibre quand même supérieur que les 4 équipes qu'ils auront à rencontrer en championnat, et les Sédunois peuvent se mettre à la hauteur, ont même toutes les armes pour passer. Et donc ces éléments-là et ces ingrédients-là, il faudra à tout prix les remettre sur le terrain dans les 4 derniers matchs, et pas juste dire, on a encore une marge, on peut jouer là-dessus. Ce serait vraiment la pire des erreurs.
Alors, avec votre expérience de joueur, j'aimerais vous poser aussi une autre question. Sion qui s'est fait éliminer hier de la Coupe, on sait, la Coupe en Valais, c'est quelque chose d'important. Il y a eu beaucoup d'engagement émotionnellement, physiquement, mentalement. Est-ce qu'une défaite comme ça, on peut craindre peut-être un contre-coup justement sur la partie ou les parties qui suivent?
Je ne pense pas, justement, dans le sens où le FC Sion a fait un parcours remarquable en Coupe. Il ne faut pas oublier qu'on est une équipe de Challenge League. On l'a dit, on l'a sorti Grasshopper, on a sorti Young Boys, on a regardé les yeux dans les yeux une des équipes qui marche sur le championnat actuellement, qui est le FC Lugano. Donc non, ça doit plutôt donner des certitudes, donner confiance. Moi, par exemple, j'ai vu un gars comme Chouaref, que j'avais vu très timoré lundi à Thun, transcender hier. Donc C'est là qu'on voit que beaucoup de choses passent par la tête, passent par la mise en confiance des éléments qui composent l'équipe. Et ça, on peut compter aussi sur Didier Tolo pour montrer l'importance de ces quatre derniers matchs, parce qu'il suffira pas de dire bon, aujourd'hui on a Ville en face, on devrait gagner. Non, il faudra à tout prix rentrer dans les mêmes attentions que contre Lugano dans les quatre derniers matchs pour faire cette promotion qu'on attend tous.
Alors le 20 mai prochain, on saura qui de Sion ou de Thun sera directement promu en Super League et qui devra passer par les barrages. À moins d'un mois de la fin du championnat, il reste 4 parties à jouer de part et d'autre. Si on compare un tout petit peu les calendriers, Yves Bourdin, c'est plutôt similaire. Les deux équipes jouent deux fois chez elles, deux fois à l'extérieur. Les deux équipes jouent Ville 7e et Schaffhouse 9e. Et donc dans ce qui change, le FC Sion affrontera Bellinzone 8e et Arro 4e. Côté Thun, c'est Baden dernier et Vaduz 3e. Donc on a quand même deux calendriers qui se ressemblent, donc finalement balle au centre.
Oui, balle au centre, d'autant plus que toutes ces équipes n'ont plus rien à jouer. Il y a 12 points d'écart entre le dernier et l'avant-dernier, donc autant dire que Baden, qui a une défaveur assez grande au goal average, est relégué. Donc ces équipes vont se présenter face à Thun et face à Sion, en ayant la motivation de l'honneur pour le match, j'ai envie de dire, de gagner. Il y aura peut-être une motivation supplémentaire de jouer contre le FC Sion, notamment à Tourbillon. On sait que quand t'es un joueur peut-être de Schaffhouse ou Ville, tu vas pas avoir tous les week-ends des matchs comme ça, notamment à Tourbillon. Donc il faudra s'attendre, comme le dit Johan, à devoir vraiment tout donner, parce qu'en face on aura des joueurs surmotivés, ça c'est sûr. Est-ce que tout le monde jouera le coup à fond? J'ose imaginer que oui, mais on ne peut pas faire de calcul en disant le calendrier est plutôt favorable ou défavorable à l'une ou l'autre des équipes. Il faut, côté FC Sion, se dire qu'en face on aura des joueurs qui seront remontés comme des petits coucous et qui voudront absolument battre ce FC Sion là et puis partir du principe que Thun devra jouer lui aussi des finales pendant ces quatre matchs pour espérer un faux pas du FC Sion, pour être promu directement. Parce que si on a passé tout le championnat en tête, en ayant cette belle épopée en Coupe de Suisse, puis qu'on crève au poteau, comme on le dit, puis qu'on doit jouer des barrages derrière, dans les têtes, ça pourrait être vraiment compliqué. Donc, autant se mettre à l'abri le plus rapidement possible et laisser cette place au FC Thun.
Alors, Johan Lonfa, quand on est si proche de remporter le titre, de refaire la promotion en Super League, comment on gère un petit peu la pression qui, j'imagine, doit être grande au fur et à mesure?
Par le travail au quotidien, par le rôle peut-être des anciens, des joueurs plus expérimentés, on en a dans cette équipe, devront montrer la voie pour éviter tout relâchement ou des choses comme ça, parce qu'on est près du but, c'est vrai. On a quand même dit toujours, même avec cette épopée en coupe, que la priorité reste le championnat, et c'est pour le club et pour les joueurs aussi de fêter une promotion, puis de jouer dans la première division du championnat, c'est quelque chose de très très important à titre personnel aussi. Donc ils auront vraiment j'espère, ils mesureront l'importance, et j'en suis sûr, de ces enjeux, des matchs qu'il faudra vraiment prendre à bras le corps, pas se créer une pression supplémentaire, mais la pression fait partie un petit peu du métier de footballeur professionnel, donc ils doivent apprendre à gérer ça et jouer le rôle de favori de la meilleure manière, En attaquant bien les matchs.
Le temps file. Merci Bourdin, Johan Lonfin, d'avoir été en notre compagnie en ce dimanche soir. Bonne fin de soirée à vous.
Bonne soirée, merci.
Bonne soirée.
Et on se retrouve dans quelques instants pour parler de cyclisme et du Tour de Romandie en compagnie d'Alain Glacé. Mais juste avant, on passe par la case musique sur RONFM.
Zone Mix sur RONFM. So
avec Johan Roduit.
Et pour terminer cette émission, on va parler de cyclisme et plus précisément de la 77e édition du Tour de Romandie. Et pour revenir sur toute la semaine écoulée, Alain Glacé, régulateur du tour, est avec nous par téléphone. Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors le Tour de Romandie 2024 s'est terminé il y a quelques heures seulement après avoir débuté ce mardi. Si le Français Dorian Godon a remporté la dernière étape, c'est l'Espagnol de 23 ans Carlos Rodriguez qui a remporté cette édition 2024. Alain Glacé, on va peut-être commencer par vous poser une question tout simple. Vous étiez régulateur sur ce Tour de Romandie 2024. Concrètement, oui. Qu'est-ce que ça veut dire et quel est votre rôle ?
Alors, on est deux régulateurs sur le Tour de Romandie. Il y en a un qui part devant le peloton et un derrière le peloton. Et après, quand il y a une échappée, celui qui est devant se met derrière l'échappée et l'autre se met derrière le peloton et on régule la circulation. Quand on est derrière l'échappée, des motos de l'escorte, les motos ficelles d'escorte, on fait passer l'échappée. On fait aussi passer les voitures VIP. Ça, c'est une autre tasse de thé. Et puis, on donne des coups de main sur ordre de Richard Chassot sur quelque chose en course. Et puis, derrière le peloton, on régule surtout les motos escorte pour doubler le peloton et les voitures VIP, interdiction de doubler.
Alors, vous évoquez ces véhicules, voitures, motos dont vous devez gérer. Ça représente un nombre de combien sur un tour comme celui-ci?
Ça dépend. Des voitures VIP, il y en a une quinzaine. Des motos de l'escorte, il y en a 30. Donc voilà, en plus il y a les motos de la Fédération Malaisanne, mais on a 150, mais eux font du point to point, et puis tandis que les moteurs de l'escorte, on les fait doubler soit le peloton, soit les échappées pour la sécurité des coureurs.
Et puis sur ce Tour de Romandie, il y avait deux chronos, deux arrivées en station, deux étapes pour les punchers ou les sprinters. Pour vous, concrètement, dans ce rôle, est-ce qu'il y a des formats qui sont plus difficiles à gérer? Est-ce que votre rôle est différent en fonction de la physionomie de la course?
Alors, par exemple, aujourd'hui, il y a eu un peu plus d'une course qui a duré plus de 4 heures sous la pluie. On n'avait pas trop de travail puisqu'il y avait très peu de motos à faire doubler. Mais c'était surtout les coureurs qui, 4 heures sous la pluie, les Valaisans ont connu des fortunes diverses. Donc voilà, sinon des jours d'une étape comme Châteaudet, on arrivait à faire facilement passer les véhicules parce que les routes sont belles ou autres, ou départ de Saillon aussi, en début de course on a pu faire passer quelques motos et autres, et puis sur les grandes routes quoi. Donc, il faut aussi connaître un peu le parcours pour dire, on ne va pas faire doubler parce que dans 500 mètres, il y a un village et on n'a pas le droit de doubler dans les villages. Donc, voilà.
Et si on revient sur ce Tour de Romandie, pour vous, là, à chaud, est-ce qu'il s'est plutôt bien déroulé maintenant avec quelques heures de recul?
Oui, il y a eu très peu de chutes. Il y en a eu une le premier jour. Ensuite, il y en a eu trois chutes. Une aujourd'hui dans une descente de coureurs sous la pluie. Il y a eu juste deux coureurs qui ont abandonné suite à des chutes. Non, c'était une très très belle étape. Et puis l'étape qui a fini à Salban aussi, c'était joli. Il faisait beau en plus, quoi. Donc que demande le peuple?
Et quel défi peut-être le plus difficile il a fallu relever sur ces cinq jours de course?
C'est aujourd'hui le mauvais temps, quoi.
Et puis
sur les motos, oui.
Non, allez-y.
Pas sur les motos, on n'est pas à l'abri de la pluie. Hein. Voilà, ouais.
Et puis sur ce Tour de Romandie 2024, il y avait plusieurs Valaisans engagés, ouais. Valentin Darbelé, Antoine Debon de la team Coratec, aussi Sébastien Reichenbach de l'équipe Tudor. Pour Valentin Darbelé, qui vivait sa première course par étape sur le World Tour, sa première participation au Tour de Romandie, vous en tant qu'ancien coureur, qu'est-ce que ça fait quand on participe comme ça à un événement chez soi et quand même de la trempe du Tour de Romandie 2024?
J'ai jamais participé à un niveau du Tour de Romandie, mais en tout cas pour Valentin, je peux lui donner une mention bien. Aujourd'hui, sous la pluie, il finit dans le deuxième peloton avec Sébastien Reichenbach à 1,21 de la tête. Antoine Debon, après 80 km, je pense qu'il y a eu un petit problème mécanique ou autre. Il était un peu dans les voitures. Et puis dès qu'on est dans les voitures, si on n'est pas super, super pour rentrer, on arrête, quoi. Et il a malheureusement dû abandonner.
Ouais, Valentin qui vivait son tout premier, ce qu'il a réussi à réaliser est quand même assez impressionnant.
Ouais, c'est impressionnant, surtout que ça fait 3 ans qu'il fait du vélo de compète. Donc, arriver à ce niveau, non, c'était bien. La montée sur Salvin, il a limité. Mais aujourd'hui, ben, j'étais derrière le peloton, tout derrière. Et puis, je voyais les coureurs lâcher. Je disais, ah ben, Valentin est toujours devant. Et puis après, je suis arrivé derrière son groupe à 1:21. Donc, chapeau, quoi, avec des conditions dantesques aujourd'hui. Ouais.
Et puis voilà, avec un tour comme ça, plusieurs étapes, différents formats, vous l'avez évoqué, des conditions difficiles. Comment on gère son énergie finalement ?
Bon, on essaye de s'abriter le maximum dans les roues, mais quand ça embraye, comme on dit, c'est difficile de s'économiser. Donc aujourd'hui, en tout cas, Valentin, bon, Sébastien, il a l'habitude, ça fait plus de 10 ans qu'il est pro. Mais Valentin, en tout cas ce qu'il a démontré tous les jours et aujourd'hui en plus, dans des conditions difficiles, finir assez dans le deuxième groupe, chapeau. En tout cas, je lui souhaite de progresser comme ça et puis dans une année ou deux, il sera encore plus devant.
Alors le classement final des Valaisans engagés sur ce Tour de Romandie, on a eu Sébastien Reichenbach 57e, Valentin Derbellay qui termine à la 68e place et le meilleur Suisse en la personne du Jurassien Yanis Voisard qui a pris le 21e rang final. Alain Glacé, on profite aussi de votre présence pour évoquer votre autre casquette. Aujourd'hui, vous êtes aussi le manager et directeur sportif de la team VTT Papival Scott, une équipe qui fait maintenant partie des meilleures équipes de VTT de Suisse, qui est connue à l'international. Même question un peu qu'avant, mais dans ce rôle-là, voilà, qu'est-ce que vous devez faire très concrètement ?
Oula, je suis là, j'ai plein de casquettes. Je récolte des sponsors financiers en matériel, par exemple la maison Papival, les vélos Scott. Donc ça, c'est un côté du travail. Après, il y a le choix des coureurs. J'ai pas mal de demandes, donc il faut choisir. Et puis pas blesser ceux qu'on choisit pas. Donc voilà. Après, je vais sur les courses, surtout sur les marathons, accompagner. Ben, l'année passée, j'accompagnais Martin Fanger. J'accompagne Martin Fanger qui est encore là dans l'équipe. Il y avait David Gisling là, qui fait deuxième du Grand Raid, qui a mis un terme à sa carrière. Donc je l'accompagnais aussi. Et puis Estelle Morel qui a fait vice-championne d'Europe. Donc là, j'ai engagé une seule nouvelle, Mélanie Grette de Neuchâtel, qui vient de se qualifier pour les championnats d'Europe en équipe nationale. Donc voilà, donc tout va bien. Et puis Martin Fanger, aujourd'hui, il a fait sa rentrée à Oufali sur le Roc des Ardennes, 108 km, il finit 20e. C'est pas mal, c'est un bon début de saison.
Alors vous avez dit avant, un de vos rôles, c'est sélectionner les coureurs. Voilà, par quoi ça passe ? Sur quoi on s'appuie pour sélectionner les coureurs ?
En un, les résultats, deux, le feeling, et puis en trois, le nez. En regardant les courses, en regardant les coureurs, on essaie de trouver les meilleurs possibles, quoi. Bon, je suis une équipe valaisanne, je prends surtout des valaisans avec des jeunes, essayer de motiver les jeunes, donc voilà aussi. Il y a Thibaut Contes, là, de Chouet, qui marche bien, qui a gagné sa première course sur route il y a deux semaines, donc il faut aussi un peu de route pour se préparer. Et puis voilà, focus sur Valais 2025, en tout cas pour Thibaut, Noémie et puis Martin.
Ouais, c'était une de mes questions. 2025, championnat du monde mountain bike USI. Ça a marqué l'histoire du VTT, puisque sur les deux semaines de compétition entre le 30 août et le 14 septembre, il y aura pour la première fois les sept disciplines du mountain bike qui seront réunies dans une seule région haute. Voilà, quelles sont un petit peu vos attentes pour cet événement là-dessus, voilà.
Alors, en cross-country, les places seront chères parce que c'est en équipe nationale. Donc, Thibaut Contes et Noémie Grette, je pense qu'ils ont une chance d'être qualifiés. Après, sur le marathon, c'est, entre guillemets, un peu plus facile. Il suffit de terminer une fois 20e dans une Coupe du Monde UCI ou être 80e mondial en marathon. Et puis, Swiss Cycling ouvre aussi des places à des coureurs qui sont moins bien classés.
Et puis avoir un tel événement comme ça en Valais, j'imagine que c'est quelque chose qu'on attend avec impatience et qui est assez incroyable.
Oui, écoutez, il faudra profiter. On espère qu'il fera beau les deux semaines. Et puis paradoxal, cette année, les championnats du monde marathon sont à Snowshoe aux États-Unis. Donc en 2025, on sera plus proche du Grand Raid BCVS, quoi.
C'est sur ces mots que vont s'achever cette émission. Merci beaucoup Alain Glacé d'avoir répondu à notre invitation ce dimanche soir. Bonne soirée.
Ouais. Et pareillement. Et puis vous aussi, merci.
Merci à Malena qui s'occupe de la technique, du bon déroulement. Et puis évidemment, merci à vous de nous écouter en ce dimanche soir sur Run FM. Bonne fin de week-end et à très vite. Ciao, ciao.
18h15, 19h, le dimanche. L'essentiel.